Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprendre Éthique. Je m'appelle Stéphie et je suis éco-conceptrice de sites web. Sur ce podcast, j'aborde des sujets liés à la création de sites web, au numérique responsable ou encore à l'entrepreneuriat et la justice sociale. Parce que oui, je pense qu'il est possible d'entreprendre en respectant vraiment ses valeurs. Alors mes invités et moi-même, vous partageons nos conseils, nos réflexions et nos expériences pour, ensemble, tendre vers un entrepreneuriat plus respectueux de la planète et des personnes qui y vivent. Bonne écoute! En business, des injonctions, on en entend beaucoup. Mais celle qu'on n'entend jamais ou presque, alors que ça devrait être l'une des plus importantes, c'est celle de prendre du plaisir. Chloé l'écrivain, le plaisir, elle l'a mis au centre de son business et de sa vie, et c'est beaucoup plus politique qu'il n'y paraît. Alors dans cette entrevue, elle revient en détail sur comment elle est passée de la naturopathie à l'entrepreneuriat féministe avec le plaisir radical comme leitmotiv. Et surtout, elle nous raconte comment se libérer des schémas classiques du business l'a emmenée vers l'activité pérenne et alignée qu'elle visait depuis le début. Bonne écoute!
Bonjour Chloé!
Salut Stéphie!
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Entreprendre Éthique. Je suis ravie de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Et la première question va être assez traditionnelle. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, en quelques mots, te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît?
Yes. Alors déjà, moi aussi, je suis ravie de ce rendez-vous. Merci de m'inviter, du coup. Et pour me présenter, alors moi, j'aime bien dire que tout mon travail tourne autour de la question du plaisir. Je pense qu'on vit dans une société où, si on se concentre un peu plus sur notre plaisir dans la vie de tous les jours, ça pourrait être très chouette. Et donc, du coup, à partir de cette recherche du plaisir, j'ai plusieurs branches d'activité, on va dire. J'organise des retraites féministes qui sont donc en mixité non choisie, que des personnes sexisées. Je facilite également différents groupes d'entrepreneurs-entrepreneuses qui s'appellent les collectives. Donc là, l'idée, c'est de juste s'apporter de l'encouragement, du soutien, des ressources autour de nos business et de le faire dans un cadre situé, mais pas forcément pour les business qui sont que féministes. Et j'ai une autre activité, c'est autour de la nourriture. J'ai lancé il y a quelques temps une activité qui s'appelle Carcar avec une de mes colocs. Et donc, on fait du catering et des gâteaux saisonniers. Et voilà, ça rejoint un peu ce que je disais au début par rapport au plaisir.
Voilà, ouais. En gros. Ok, très bien. Alors là, tu parles à une meuf dont la passion dans la vie, c'est la bouffe. Donc, associer la nourriture et le plaisir, ça ne peut que me parler.
Yes. On va finir par ça, en fait. On va parler de nourriture pendant une heure.
C'est ça, je pourrais, largement. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu as pensé à créer ton entreprise? Et si oui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand est-ce que c'était? Avec qui tu étais peut-être? Ce que tu faisais?
Alors, moi, j'ai lancé une toute première entreprise quand j'avais 22 ans, je crois. Qui s'appelait Studio l'écrivain et qui était une sorte de réalisation d'un rêve que j'avais depuis que j'étais toute petite, c'était de créer des vêtements. Et donc en 2012, j'ai décidé d'arrêter mes études là où j'en étais et de lancer ma maison, mon studio de création de vêtements. Donc j'ai vraiment lancé mon entreprise parce que j'ai créé un statut, etc. Donc ça, c'est ma première entreprise qui n'a pas fait long feu, mais c'était très bien, c'était une très bonne première expérience. Puis j'ai quand même très bien bossé, j'ai sorti une collection, il y a eu des photos, des ventes, etc.
Trop bien.
Donc celle-ci, j'étais, je pense, quand je l'ai lancée, quand j'en ai eu l'idée, c'était un moment où je me disais, ok, en fait, ce qui m'attend avec mes études, ça ne me convient pas. Et donc du coup, je veux aller de l'avant, je veux créer quelque chose, je veux déjà aller vers quelque chose qui me fait plaisir. Et donc, du coup, j'ai eu cette impulsion-là pour créer donc, Studio l'écrivain.
Ok. Parce que tes études, tu faisais quoi?
Dans l'art.
Ok.
Et voilà. Et puis, après, suite à ça, la vie m'a menée vers différentes choses et différents endroits. J'ai eu différentes expériences, mais c'était plus des jobs alimentaires pour pouvoir subvenir à mes besoins et avoir des projets quand même à côté en lien déjà avec des choses que j'aborde aujourd'hui, donc toujours la question du plaisir, le féminisme, etc. Et puis, suite à un... Donc, c'était quand j'étais en Australie. J'ai vécu à Melbourne pendant une petite année. Je me disais qu'en revenant en France, il était temps que je crée quelque chose, qui est quelque chose qui faisait sens pour moi, pour les autres, etc. Et en fait, à Melbourne, je pense de par le fait que c'est une grande ville, mais aussi parce que c'est une culture anglophone et que des fois en France on est un peu en retard sur certains sujets. En tout cas, à Melbourne, j'ai compris que en fait travailler dans le soin, dans l'accompagnement, c'était possible et envisageable. Et du coup, je me suis un peu renseignée sur ce qui était possible en France. En rentrant, je me suis formée en naturo. Donc, j'ai un diplôme de naturopathe.
Ok. Et ça, c'était en quelle année, juste pour restituer?
Le diplôme, je l'ai eu en 2017.
Ok.
Donc, Australie, c'était 2015-2016. Je crois que c'est ça. Et du coup, suite à ma formation, enfin même pendant la formation, en fait, j'ai préparé mon installation pour pouvoir, dès le diplôme, me lancer, ouvrir mon cabinet. Et pour le coup, là, j'avais vraiment eu une approche j'avais préparé un business plan, j'avais vraiment été rencontrer des personnes dans le territoire où j'allais m'implanter pour savoir ce qui était juste, ce qui était intelligent, etc. Et donc, Et donc après, j'ai ouvert mon cabinet et l'aventure entrepreneuriale a recommencé, mais réellement commencé quelque part, quoi.
Ok, donc à la base, l'idée, c'était ouvrir un cabinet de naturopathie, c'est ça?
Ouais, en tout cas, c'était d'apporter des outils aux gens pour qu'ils se sentent mieux dans leur vie et de leur donner une sorte de pouvoir, quoi, une forme de pouvoir.
Ok, et tu dis que ça, c'était beaucoup plus structuré, entre guillemets, que ta toute première expérience. Est-ce que tu t'es fait accompagner ou est-ce que tu as cherché des infos toute seule sur Internet?
Alors, un truc qui est hyper chouette, c'est que j'ai pu faire financer ma formation parce que justement, j'ai fait des gros dossiers qui n'ont pas été acceptés dans un premier temps. Et donc après, j'ai fait appel et donc j'ai encore bossé mon dossier. Et en fait, c'était très chouette d'avoir ça, d'avoir cette possibilité-là, parce que du coup, c'est là où ça m'a permis de pouvoir vraiment créer un business plan, faire tout, quoi, prévisionnel, etc. Et j'ai été accompagnée par ma sœur qui me filait des coups de main, mais après moi je suis quelqu'un qui adore aller rechercher des informations, je suis une personne très curieuse, donc du coup j'ai balayé plein de forums, de sites internet, de documentation, etc. Donc j'ai pas été formée sur le coup pour créer mon entreprise, mais d'une certaine manière je me suis formée moi-même, quoi, en allant chercher les informations.
Ok. Ouais. Et du coup, t'as donc ta formation de naturopathie qui a été financée. Et c'était quel organisme?
C'était les fonds CIF. Je crois que c'était par un OPCA, quelque chose comme ça. Enfin, c'est les organismes de financement de formation quand t'es salarié, en gros, quoi.
Oui, ok. Ouais, je crois aussi que je m'étais renseignée un truc qui s'appelle le fonds GESIF ou un truc comme ça.
Oui, voilà, c'est ça. C'est
exactement ça. Ok. Ok. Donc, eux, ils t'ont permis de... Enfin, et eux t'ont permis de financer la formation. Est-ce que aussi... Alors, c'est une formation qui a duré combien de temps?
C'était un an. C'était une formation en présentiel, du lundi au vendredi. En gros, on faisait l'équivalent d'une licence en un an. Donc, je peux dire que ça a charbonné sec.
J'imagine.
Ouais. Et donc, ma formation a été financée. C'est des formations qui coûtent cher, les formations comme ça. Et en plus de ça, j'avais que l'équivalent d'un salaire, en fait, tous les mois. Donc, autant te dire que toutes les conditions étaient méga bien réunies pour la formation et pour entreprendre ensuite, quoi, parce que du coup j'ai mis un peu d'argent de côté et puis j'étais pas ric-rac, quoi, donc
c'est exactement la question que j'allais te poser, parce que effectivement il y a le sujet de financer sa formation, mais il y a aussi financer sa vie quand on est en formation, et donc ça c'est vrai que c'est comme tu dis les meilleures conditions possibles pour se lancer, quoi.
Complètement, ouais.
Ok. Donc, tu fais cette formation, et une fois que tu as fait cette formation, c'est quoi le tout premier truc que tu fais pour ouvrir ton cabinet?
C'est prendre une décision. Où est-ce que je vais après? Donc, ma formation, je vivais à Marseille à cette époque-là. Et donc, j'avais fait tout mon dossier, tout le plan pour ma future entreprise en imaginant un projet situé en Bretagne. Et puis après ma formation, du coup, j'étais en mode, est-ce que je retourne vraiment m'installer en Bretagne, du coup, là où j'ai grandi, ou est-ce que je vais ailleurs? Et donc ça a été le premier point, c'était de me dire, ok, je retourne en Bretagne, milieu rural, là où j'ai grandi, let's go. J'avais beaucoup d'envie et d'énergie à l'époque, quand j'y repense. Et donc, bah, en fait, ça a été, première étape, ça a été au-delà de créer, tu vois, tous les statuts et tout, de trouver un lieu. C'est trop drôle d'y repenser, de créer une page Facebook, de créer une page Instagram, un site internet, de contacter les journaux locaux pour qu'on parle de mon activité, parce que moi mon but c'était de pratiquer très vite, je voulais pas que ça traîne, et du coup je voulais en gros, à partir du moment où mon cabinet ouvre, avoir déjà des personnes qui venaient me voir. Donc du coup, j'ai fini ma formation en décembre, et de janvier à janvier, février, mars, quelque chose comme ça, j'ai vraiment bien bossé pour l'ouverture de ce cabinet, et il a dû ouvrir en avril. Je ne sais même plus la date, figure-toi.
Ok. Donc là, on est en 2018, c'est ça?
On est en 2018, je crois. 2018 ou 2019, là, j'arrive plus à savoir exactement.
Ok, mais donc toi, ta stratégie, on va dire, c'est que tu te dis, en fait, je mise tout sur de la com avant même le lancement, pour qu'une fois que ça ouvre, les gens viennent et que je puisse déjà commencer à en vivre, je sais pas, mais en tout cas à dégager déjà un petit revenu, quoi.
Ouais, un petit revenu et me faire de l'expérience aussi. Hein.
Ok.
Parce que du coup, au niveau financier, j'avais cotisé auprès de Pôle emploi pendant plusieurs années, j'avais pas touché à mon chômage pendant la formation. Donc, je savais que j'avais un matelas, tu vois, qui me permettait de, c'était pas des 1000 et des 100, mais qui me permettait de payer mon loyer et de pouvoir en vivre, quoi. Enfin, de pouvoir vivre, tout court. Donc, le but, c'était quand même surtout de pratiquer, en fait. De pratiquer, de me faire de l'expérience. Et voilà, je ne sais plus exactement quelle était ta question.
Non, c'était ça. C'était de te dire que toi, tu avais misé en fait sur le pré-lancement, on va dire, de ton entreprise, et que tu avais déjà, avant même d'ouvrir, communiqué et fait en sorte que les gens soient au courant qu'il se passait un truc, que Chloé ouvrait son cabinet et qu'il fallait venir.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, j'ai aussi usé un peu de mon réseau, clairement familial à ce moment-là, du coup, vu que c'était là où j'ai grandi. Et puis ouais, j'ai été contactée certaines personnes qui me semblaient intelligentes de contacter sur place. Et voilà, après, avec le recul maintenant, c'était des outils très... c'était des manières de faire très... comment dire, je trouve mignonne, tu vois, dans le sens où, bah oui, j'ai fait des cartes visites, j'ai été en mettre un peu partout. Je me suis dit, allez, ce que tu viens de dire, quoi, on essaye de se faire connaître. Et je savais aussi qu'il y avait de la demande, parce que justement, il n'y avait pas de naturaux dans l'endroit où je m'installais. Okay. Et que les naturaux qui étaient plus loin, elles ou ils d'ailleurs, croulaient sous le travail.
Donc, ok, parce que moi ouais, j'ai du mal à me représenter, mais c'était déjà un sujet dont on parlait, que les gens connaissaient. La naturaux, c'était pas la mode, mais voilà, déjà assez connu.
Ouais. Et en milieu rural, les personnes sont très intéressées en fait par le soin de manière naturelle. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que j'avais un peu un a priori là-dessus, que c'était quelque chose de plus citadin ou quoi, mais en fait, non, pas du tout. Enfin, donc, ouais, il y avait vraiment un besoin, quoi.
Ok. Donc, très bien. Donc, du coup, tu mets tout ce qu'il faut en place pour qu'on soit au courant que ton cabinet ouvre, et arrive le jour où ton cabinet ouvre. Est-ce que ta stratégie a fonctionné? Est-ce que tout de suite, des gens sont venus?
Ouais. Alors, le stress, quand j'y repense. Mais, ouais, bah du coup, en fait, j'avais déjà, avant que le cabinet ouvre vraiment officiellement, bah, j'avais déjà des rendez-vous de prix, en fait.
Ok.
Donc, je ne sais plus exactement, mais je me souviens que la première semaine, j'avais eu au moins, je pense, 5 rendez-vous dans la semaine. Donc, c'était cool, quoi, vraiment. Et au début, c'était chouette que ça se passe comme ça. Je pense que ouvrir et n'avoir personne sur le coup, ça m'aurait sûrement tiré dessus, quoi, un peu. Mais là, non, il y avait du monde, et donc du coup, je pouvais pratiquer assez rapidement et me lancer, quoi. Donc voilà, j'ai ouvert le cabinet, j'ai eu des rendez-vous. J'ai eu des rendez-vous très bizarres avec des personnes qui, je me souviens d'une personne en particulier qui c'était un rendez-vous qui m'a fait flipper d'ailleurs. Il y avait un peu un truc de ok, là, bah, ça y est, je suis lancée, c'est parti, on y va, quoi. Le bise est ouvert.
Ouais, parce qu'au final, en fait, t'as eu une formation, mais c'était une formation théorique. Est-ce que t'avais dû pratiquer? Est-ce que t'avais déjà eu des gens en face de toi qui venaient avec un problème et que t'avais dû régler, ou c'était vraiment le grand bain, quoi?
Ouais, alors pour le coup, l'école que j'ai faite, il y a des choses chouettes et des choses moins chouettes à dire, mais un truc qui est cool, c'est que on commence en janvier, on finit en décembre. À partir du mois de juin, on commence à avoir de la pratique. Donc, en fait, il y a des personnes qui viennent et on fait des sortes de séances devant la classe avec un enseignant, une enseignante. Et du coup, j'avais vraiment ce truc de « Ok, il faut que je pratique parce que c'est comme ça que je vais apprendre, en fait. » Et du coup, j'avais beaucoup de pratique avant et ça ne me faisait pas peur du tout d'avoir de mener des rendez-vous. Je savais que j'étais capable de mener des rendez-vous. Ce qui me faisait peur, je pense, c'était plus le grand saut de « Ok, c'est parti, quoi, je vais accueillir des gens, j'ai créé mon espace, tout ça, quoi. » Mais le fait de mener les rendez-vous, c'était pas quelque chose qui me faisait flipper parce que j'avais déjà eu de l'expérience. Donc, du coup, je voulais continuer.
Ok. Ok, donc trop bien, tu ouvres, les gens viennent. Bon, t'as des séances plus bizarres que d'autres. Mmh. Comment ça se passe un peu ton développement? Est-ce que passer le... Voilà, je sais pas si on peut dire le buzz, mais en tout cas le moment où beaucoup de gens parlent de toi parce que tu fais parler de toi et que du coup les gens viennent, est-ce que ça continue? Est-ce que tu mets des choses en place pour que les gens continuent de venir? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Enfin, comment ça se passe un peu la suite?
La suite, ça se passe que je continue quand même d'avoir du monde. J'ai un chiffre d'affaires qui n'est pas nul chaque mois. Je mets en place des ateliers, je fais des sorties cueillettes et découvertes des plantes comestibles dans la nature. Je fais des pubs Facebook, je remplissais mes ateliers avec les pubs Facebook. J'étais vraiment motivée quand je repense. Je
ouais, tu fais de la pub quand même. Ouais. C'est que tu étais déjà prête à investir. C'est con, mais c'est quand même un truc qu'au début, on n'est pas tous et toutes prêts à faire, d'investir de l'argent pour de la pub. On se dit, bon, c'est peut-être pour les plus grands que moi. Donc, toi, tu étais quand même... bien motivée, ouais.
Ouais. Après, mon budget pub, je pense que c'était 12 euros par pub, tu vois. Mais bon, ça me permettait quand même de toucher des gens. Et en fait, la plupart des ateliers, c'est comme ça que je les ai remplis. Donc, c'était cool. J'ai fait des ateliers de cuisine végétale aussi. Initiation à la cuisine végétale. Donc, c'était aussi une autre manière d'ouvrir mon activité et de partager, tu vois, des connaissances, de donner des nouveaux outils aux personnes. Et puis, l'été est passé et je me souviens que à la rentrée, je me suis dit, bon, c'est cool. Effectivement, je vois des gens, j'ai des clients et tout ça, mais il faut que... Enfin, clairement, j'ai besoin de trouver une stratégie pour faire en sorte que mon activité soit viable, parce que là, je gagnais un peu d'argent, mais clairement... c'était pas suffisant, quoi. Je sais plus exactement au niveau chiffres c'était quoi mes chiffres d'affaires de ce moment-là, mais enfin clairement c'était moins de 1000, quoi, c'est sûr et certain. Et donc voilà, et donc là je me suis fait accompagner pendant plusieurs mois par une personne qui accompagnait les entrepreneurs, entrepreneuses qui étaient dans le soin, dans l'accompagnement. Et sur le coup, ça m'a beaucoup stimulée. Ça m'a permis de pouvoir bosser un peu les autres fondements d'une activité que je n'avais peut-être pas fait vraiment jusque-là. Mon pourquoi, ma vision, ma clientèle cible, etc. Donc, ça m'a fait bosser. Il y a des trucs que j'ai compris, notamment le pourquoi, c'est quelque chose auquel je reviens très, très, très souvent. Et c'est, en fait, même au-delà du business, c'est trop important d'avoir un pourquoi ou des pourquoi dans la vie et de s'y connecter. Donc elle m'a suivie pendant plusieurs mois et aussi en parallèle de ça, j'ai fait un constat qui est assez affligeant d'une certaine manière, c'est que je me suis retrouvée face aux réalités sexistes du monde dans lequel on vit et En fait, les violences qu'on connaît, qu'elles soient sexistes ou sexuelles, qui visent les femmes, ben, en fait, là, j'étais vraiment face à elles. Et c'était pas une personne sur 10 qui me confiait ce genre de choses, c'était 8 femmes sur 10 qui me confiaient ce genre de choses. Mmh. Et donc, du coup, moi, j'étais avec mes outils de naturaux face à elles. Ben, oui, donc là, l'argile, ça va pas trop vous aider. Donc, je me suis retrouvée dépourvue d'outils pour des problèmes qui étaient beaucoup plus grands. Et aussi autre chose, c'est que je me rendais compte de à quel point les personnes qui venaient en fait remettaient la faute de leurs symptômes, de leur mal-être sur elles, eux en fait. Et puis moi j'avais ma formation de naturo, j'avais aussi toutes mes lectures féministes du début de ma vingtaine, toutes les conversations que je pouvais avoir avec des amis, avec je sais pas, avec d'autres personnes quoi. Et en fait, je me disais, là, il manque quelque chose, quoi. Il y a un problème beaucoup plus grand dont on ne parle pas. C'est un peu comme si on ne parlait pas de l'éléphant, quoi. C'est dans la pièce, vraiment.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit, OK, donc j'aimerais bien rendre mon activité viable à terme. Donc, je me fais accompagner. Il y a cette réalité que, en fait, l'accompagnement ne peut pas être neutre parce que, le neutre, ça veut dire que tu prends position pour autre chose, quoi, enfin pour le statu quo. Et puis, en fait, autant, toutes les personnes qui viennent me voir subissent le rapport très individuel qu'on a dans la culture blanche capitaliste, quoi, pour dire les grands mots. Donc ça, ça a été quand même quelque chose qui est venu assez rapidement. Mais je pense que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver quoi en faire, en fait, de tout ça. En tout cas, il y avait des choses qui étaient claires et nettes. C'était que, du coup, les personnes avaient besoin de soutien au niveau de la gestion de leur système nerveux, avaient besoin d'outils pour développer des skills en intelligence émotionnelle et avaient besoin de se réunir pour pouvoir parler avec d'autres personnes plutôt que de rester dans son coin de « je vis ça tout seul ». Donc, tout ça a mis du temps. J'ai commencé à moi, mettre en place des accompagnements individuels plus longs. J'ai appliqué à la lettre ce qu'on conseillait à l'époque et ce qu'on conseille toujours. Avec le recul, je me rends compte que c'est pas forcément moi ce qu'il me fallait. Voilà. Mais en tout cas, j'ai testé des trucs et je me suis formée pour pouvoir avoir plus d'outils et accompagner les gens, en gros.
Ok. Ça fait une. Alors, je sais que maintenant ça existe. Je crois. Je suis presque sûre que ça existe. Je ne sais pas si à l'époque ça existait déjà, mais est-ce que tu as fait une formation pour accompagner en particulier les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles ?
J'ai une formation. Je suis une formation pour ça. Pour le coup, ce n'est pas forcément les choses que j'utilise moi pour mon accompagnement, mais oui. Enfin, oui. J'ai suivi une formation. Je me rappelle, c'était des formations qui étaient en ligne au Canada. Une formation sur les violences sexuelles et sexistes et une formation sur les questions de genre aussi.
Ok.
Et après, ces deux formations-là, c'était des formations, je pense que j'avais besoin, moi, de mettre sur mes lignes de CV, tu vois.
Oui, de te rassurer.
Mais pour le coup, c'est aussi des choses que j'ai apprises dans la pratique et en lisant des choses et en échangeant avec d'autres personnes. Donc voilà, en gros.
Ok. Donc, tu fais ce constat après quelques mois d'activité qu'en fait, il y a un problème plus systémique qui se présente face à toi et que tu n'as pas envie de l'ignorer et que tu as envie de l'intégrer dans ta pratique. Du coup, tu nous dis que tu y penses, que ça met du temps à se mettre en place. Du coup, ça a été quoi les premiers trucs qui te sont venus, les premières choses que tu as mis en place par rapport à ça ? Est-ce que ça a été progressivement changer un peu la façon d'accompagner ou est-ce que ça a été radicalement de faire un truc complètement différent ? Comment ça s'est mis en place ?
Je pense qu'à ce moment-là, j'étais un peu tirée entre deux trucs. Les messages que j'avais du monde du business qui sont très pushy, « Hey, on y va !» et « on veut faire du chiffre !» et ça te donne envie aussi, tu vois. Et puis du coup, c'était vraiment... Enfin, de toute façon, c'est encore le cas, mais c'était le moment où tu commences à avoir toutes les formations, 10 cas en un mois, machin. Et mine de rien, ça donne envie, en fait. Tu vois, tu te dis, bah oui, moi aussi, j'ai envie d'avoir de l'argent. J'ai envie d'avoir des moyens de mettre en place plein de choses, quoi. Donc, j'étais tirée entre ça et entre... Et entre quoi ? C'est quoi que je voulais dire ? Et entre ma volonté de... De me sentir plus alignée avec ce que je proposais et de vraiment apporter quelque chose aussi, au fond. Et en fait, je suis restée un an dans mon cabinet.
Okay.
Vraiment, c'est genre une année trop chouette. J'aurais la flemme là de la revivre quand j'y repense. Mais c'est une année qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. J'ai vraiment accueilli beaucoup de personnes dans le cabinet. Et donc, c'est mes skills de l'accompagnement et de la facilitation, je les dois vraiment à cette année-là, je pense. Et en fait, moi, au bout d'un an, je me suis dit, bon, OK, clairement, c'était cool de revenir là où j'ai grandi. Mais moi, je ne vais pas m'épanouir ici, donc je me casse. Et donc, je suis partie sur la Côte Basque, parce que c'était un endroit où je voulais m'installer depuis un moment. Et j'avais hésité un peu après Marseille. Et donc, du coup, je suis partie. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, donc c'était début 2020, et quelques temps après, début 2020, donc, mon cabinet, c'était 2019.
Okay.
Et en fait, Covid. Donc,
ouais.
Confinement, tout ça. Et du coup, pendant cette période, j'ai essayé de proposer d'autres choses, de m'adapter à la situation. J'ai facilité des cercles avec une amie pendant un an, pendant toute la période Covid année 1, en gros. Ça, pareil, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et puis, moi, en parallèle, je réfléchissais un peu à comment faire évoluer mon travail, quoi. J'étais quand même encore dans une logique de coaching, séance, package de coaching individuel. Voilà. Mais c'était dur, hein, vraiment. Les premières années, c'était très dur de trouver l'équilibre entre je veux gagner de l'argent, parce qu'en fait, je veux vivre de ce que je propose, ce qui est complètement normal, et en même temps, je veux aussi proposer des choses qui sont accessibles à tout le monde, ou en tout cas à des personnes qui, comme moi, n'ont pas forcément beaucoup de ressources. Et puis, en fait, je pense qu'à ce moment-là aussi, j'ai décousu pas mal de choses entre toute la pensée néolibérale, business que j'avais intériorisée. Enfin, ça a pris du temps, en gros, hein, vraiment. Je pense que de 2020 à 2022, ouais, toute l'année 2020, toute l'année 2021, donc 2 ans, ça a été une sorte de parcours un peu du désert avec des moments d'errance totale, des moments de « ouais, on y va », de « ok, je me forme à ci, je me forme à ça », en me disant « ok, il y a un moment où… » Enfin, aie confiance dans le processus, il y a un moment où ça va, tu vas créer quelque chose qui fait sens et qui est… Enfin, tu vas arriver à quelque chose, quoi. Je savais bien que j'allais vers quelque chose, je ne savais pas vers quoi.
Ok, t'étais confiante.
Oui, exactement. Et il y a vraiment des choses sur ces années-là qui, Dieu merci, je ne sais pas pourquoi je dis Dieu merci, mais Dieu merci, je suis vraiment très heureuse de les avoir vues, de les avoir lues, de les avoir entendues, parce qu'en fait, c'est ça qui m'a permis de me dire, genre, ok, c'est comme ça qu'on fait une entreprise, c'est comme ça qu'on continue un business, notamment des chiffres que je n'arrive pas à retrouver, mais du coup, je m'en souviens, alors peut-être qu'ils ont évolué, mais que il n'y a que 20% des micro-entreprises qui tiennent les 5 ans. Donc, j'imagine que les 80 autres, il y en a certains qui passent en société, mais il y en a aussi beaucoup qui arrêtent. Que très peu de ces 20% qui passent les 5 ans en vivent avant leurs 5 ans. Et du coup, en fait, j'étais là, non mais d'accord, donc en fait, faire du business, ça prend du temps, quoi. Enfin,
c'est ça. Et là, j'ai pas envie de dire Dieu merci, mais j'ai envie de dire Chloé merci de donner ces chiffres. Parce que clairement, quand tu lances ton entreprise et qu'au bout de 6 mois, tu n'arrives pas à te payer un salaire, tu te dis « Oh mon Dieu, mais ce n'est pas normal, qu'est-ce qui se passe ?» Or, c'est tout à fait normal.
C'est
et
ça.
Du coup, ça m'amène des questions parce que tu es en Bretagne, tu te dis « En fait, ce n'est pas pour moi ici, donc je vais partir au Pays Basque. » L'idée, c'est d'ouvrir un nouveau cabinet au Pays Basque ou alors non, je pars au Pays Basque et j'arrive, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire de mon activité.
En partant, l'idée c'était d'ouvrir, en tout cas de rejoindre un cabinet là-bas. Et en fait, peu de temps après, avant même que je m'installe, il y a le Covid. Et donc, du coup, en fait, non, on reste en ligne parce que je faisais déjà des choses en ligne à ce moment-là.
Ok. Et donc, voilà. ça veut dire que. Parce que, quand même, je sais pas si je fais une généralité, mais en tout cas, je me dis, si tu développes quelque chose en physique avec un cabinet, ton réseau, etc., tu mets pas forcément l'accent sur ta communauté digitale. Mais toi, peut-être que c'est quelque chose que tu avais fait quand même. Est-ce que c'est le cas ? Parce que je me dis, pour que en fait, ça prenne aussi d'un point de vue digital et événement en ligne et tout, il faut quand même déjà avoir une base de personnes à qui dire, en fait, je vais faire du digital.
Ouais. Alors, nous allons donc passer sur la question des réseaux sociaux. Donc quand je me suis lancée, j'ai créé un compte, j'ai créé un compte Insta, un compte Facebook et un site internet avec une newsletter. Et compte Instagram, j'ai commencé de zéro. Enfin, j'avais mon compte perso à l'époque, mais j'en ai créé un compte pro. Bon, clairement, maintenant, j'ai qu'un seul compte. C'est ni pro ni perso, c'est Chloé l'écrivain. Voilà. Et mais du coup, bah en fait. Ouais, j'ai commencé à partager des choses aussi sur les réseaux. J'avais donc une newsletter. Pour le coup, je partageais vraiment des tips naturaux à cette époque-là.
Et ça, c'est dès le début.
Dès le début, ouais. Ouais.
Ok.
Et c'était donc 2019. À ce moment-là, c'était quand même encore facile de toucher des gens. Enfin, c'est toujours facile de quelque part de toucher des gens sur Insta. C'est juste que à l'époque, il n'y avait pas les réels, quoi, clairement.
C'était pas pareil.
Et on était moins nombreux. Et enfin, voilà, oui, c'était pas pareil. Donc, voilà. Mais après, en vrai, avec le recul, je pense que toute la partie un peu digitale de mon activité, c'était quand même plus des amis d'amis d'amis, ce genre de choses, quoi. Ou des personnes que je rencontrais en chair et en os qui, après, suivaient mon travail. Quelques personnes qui arrivaient des réseaux et que je n'avais jamais vues, mais au final, il y avait quand même quelque chose, il y avait quand même un contact physique, quoi. J'allais beaucoup à Paris à cette époque-là. J'allais à peu près une fois par mois à Paris, je pense, ou une fois tous les deux mois. Et donc, du coup, je voyais aussi du monde là-bas. Enfin, voilà, je bougeais et donc je rencontrais des nouvelles personnes.
Ok, donc tu développais ton réseau digital grâce au réseau physique.
Ouais, et aussi digital quand même. Enfin, je pense que là, okay. Maintenant, il y a des gens qui sont là. Depuis le début, quoi, ou quasi.
Ok. Et la deuxième question qui me vient sur cette époque, c'est tu nous as dit qu'au début de ton activité, tu arrivais à te dégager un petit chiffre d'affaires, mais clairement pas de quoi supporter toutes tes charges. Donc, quand tu décides de déménager, tu es toujours dans cette situation où tu n'es pas encore capable de te payer un salaire, on va dire.
Enfin, ouais.
Parce qu'on vit derrière salaire. Donc ça veut dire que pendant ta transition et pendant le moment où tu fais des événements en ligne début Covid et tout, tu vis toujours sur tes économies d'avant. Enfin, j'imagine une partie économie, une partie ce que tu gagnes, c'est ça ?
Ouais. Alors en gros, quand j'ai lancé mon cabinet, donc du coup j'avais des droits au chômage. Comme ma première année au cabinet, j'ai quand même eu des rentrées d'argent. Ça a décalé mes droits, quoi. Et donc, du coup, quand je suis partie pour aller dans le Pays Basque, du coup, j'avais encore des droits, en fait, auprès de Pôle emploi. J'avais cette chance-là, quoi, plus l'argent que je faisais rentrer. Mais clairement, à partir du moment où j'ai quitté le cabinet, mon chiffre d'affaires, il a quand même bien, bien baissé. Cette période-là, c'était une période... d'introspection et de réflexion très intense, et du coup il y a des choses que j'ai essayé qui n'ont pas marché. Je faisais presque plus de consultations naturaux à l'époque. C'était vraiment plus des accompagnements longs où on bossait plus les émotions, la gestion du système nerveux, etc. Donc on va dire 2020-2021, j'avais encore le chômage, en fait.
Ok.
En gros.
Donc là, on est fin 2021, quand tu arrives à la fin de ta période d'introspection. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu as d'un coup une idée où tu te dis, en fait, c'est comme ça que je vais faire et ça va être trop bien. Ou alors, c'est quand même progressif où petit à petit, tu as mis des trucs en place qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui.
2021, j'ai fait une formation de coaching.
Ok.
En prenant de grandes précautions pour être sûr que la formation allait être bien, qu'on allait parler de systémie. Que c'était pas du pipeau où en fait on en mode pyramide de Ponzi où en fait on te vend juste des impressions, quoi.
Ouais.
Bon, manque de bol, c'était pas ça. Enfin, c'était ce que je craignais, du coup. Et donc là, en fait, je me suis dit, ok, donc là, en fait, le monde du coaching, le monde du bien-être, le New Age et tout, vous me saoulez. J'ai plus confiance en vous, en fait. Enfin, voilà. Et du coup, je me dis, ok, vas-y, tant pis, on va faire avec ce qu'on a, on va créer avec ce qu'on a. Et il y avait déjà cette idée d'activisme du plaisir qui était là. Activisme du plaisir, qui est un terme qui a été théorisé par une autrice qui s'appelle Adrienne Marie Brown.
Ok.
Et donc, du coup, bah, moi, en fait, je voulais aussi déjà incarner un truc de « Ok, en fait, j'arrête de faire des trucs qui me font chier dans ma vie et dans mon business. Je fais les choses qui me plaisent. » Et je commence, en tout cas à ce moment-là, je commence à essayer de réfléchir à qu'est-ce qui me plaît au-delà de qu'est-ce qui pourrait potentiellement me rapporter de l'argent.
Et ça, quand même, c'est... Alors, je trouve ça génial et en même temps flippant. Comment t'as fait ça, flippant,
on peut le dire. Donc là, j'ai eu la chance de avoir une arrivée d'argent, un bout d'héritage qui est arrivé. Que quand il est arrivé, je me suis dit, c'est super, je vais pouvoir mettre ça de côté et ça me servira pour pouvoir acheter cette petite maison dont je rêve au bord d'une rivière incessamment sous peu. Et en fait, ben, du coup, cette somme d'argent m'a plutôt servi à développer mon activité et en fait juste à me permettre de pouvoir mettre en place tout ce que j'avais à mettre en place et juste ben, en fait, avoir un salaire, je mets des gros guillemets, chaque mois, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, donc c'est pas une somme incroyable hein, que j'ai eue à ce moment-là, mais en tout cas, ça me permettait d'être à peu près OK pendant 10 mois. Sachant que je ne sais vraiment pas comment j'ai fait quand j'y repense, parce que je vivais à Biarritz à l'époque, mais j'ai géré. Je dis ça parce que Biarritz, c'est comme un endroit où il faut de l'argent pour pouvoir vivre. Et donc, du coup, ben, ouais, j'avais cette chance-là. Donc, je me suis dit, OK, je vais tester des trucs, quoi. Donc, c'est là où j'ai lancé les collectives. C'est début 2022. Okay. C'était gratuit à l'époque. C'était vraiment crash test, quoi. OK, on essaye quelque chose, on voit comment ça marche. Et dans tous les cas, je contribue à quelque chose et c'est ça qui est important, quoi. Donc, il y a eu le début des collectives.
Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, les collectives ?
Ouais. Alors, du coup, les collectives, c'est un groupe d'entrepreneurs-entrepreneuses qui ont envie de trouver un espace pour développer son activité ou pour maintenir son activité, mais avec des personnes qui ont des valeurs engagées et qui ont aussi un regard systémique, en gros, sur l'organisation de nos business, quoi. Donc, en fait, c'est des groupes de soutien. Et c'est juste que bah, des fois, on se rappelle qu'il y a des histoires de différences de genre, enfin d'inégalité de genre, des questions de discrimination raciale, sociale, etc. Et on est plus dans une recherche de « Ok, comment est-ce qu'on peut développer nos business tout en prenant soin de nous et en amenant des choses positives pour le futur, plutôt que de « on va faire de la grosse thune, et quand on veut, on peut, et on y va, et si t'es fatigué, c'est que t'es nul ». J'exagère, je caricature énormément. Mais en gros, c'est voilà, il y a un groupe de soutien et d'entraide pour les entrepreneurs et entrepreneuses, sans mec cis dans le groupe, donc en mixité non choisie, quoi.
Ok.
Femmes et personnes non binaires. Voilà, donc j'ai lancé ça début 2022. Ça a duré, je dirais, 3 mois. C'était une super expérience. Puis j'ai arrêté. Je me suis fait coacher à ce moment-là pour justement essayer de trouver comment j'allais continuer mon activité. Et en fait, c'est de là qu'est venu un peu tout ce que j'ai mis en place depuis un an. Tout ce que je propose, enfin après il y a des choses qui étaient déjà là avant, et en fait c'est très drôle parce que je me rends compte que toutes mes envies que j'avais avant de faire cette formation de Naturo, en fait c'est des trucs que je suis en train de réaliser maintenant, réunir des gens, créer des retraites, mes projets futurs, ils sont de plus en plus près. Depuis j'ai quitté le Pays Basque, je suis revenue en Bretagne. Je ne suis pas exactement là où j'ai grandi, je suis à Rennes, dans la campagne rennaise, quoi, à côté. Mais du coup, ouais, je pense que toute l'année 2022, ça a été une année où ça y est, ça prenait tout ce sur quoi j'avais travaillé ces dernières années avait bien pris racine. J'ai aussi une certaine confiance, je pense, dans l'entrepreneuriat. Enfin, j'ai compris qu'en fait, je ne jouais pas ma vie, qu'il fallait se planter, qu'il fallait essayer des trucs. que ça pouvait être aussi multiple, que je n'étais pas obligée d'avoir juste un type d'offre, etc. Et donc voilà. Donc en gros, 2022, c'était encore un peu une sorte de test de OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place, comment je le fais, etc. Entre-temps, j'ai lancé des programmes et tout. Enfin, j'ai vraiment testé pas mal de choses. Il y a des trucs qui ont marché, il y a des trucs qui n'ont pas marché. Et puis, l'été dernier, du coup, je me suis dit, OK, je pars de Biarritz, je retourne en Bretagne. Et du coup, bah, depuis que... C'est presque comme si j'avais fait de la préparation, j'ai l'impression, pendant 4 ans. Et en fait, je vais arriver à ma 5e année d'entrepreneuriat en janvier prochain. Et j'ai l'impression que ça y est, en fait, toute la préparation, elle m'a été très utile. Et que du coup, depuis septembre dernier, c'est... Bah, même un peu avant, en vrai. En gros, depuis début 2022, je fais des choses qui ont du sens, qui touchent des gens, qui... Voilà. J'ai pris un peu ma place, quoi, on va dire, dans le paysage.
Trop bien. C'est trop bien d'entendre un parcours comme ça, où... Enfin, un vrai parcours, quoi, où ça s'est pas fait en 6 mois, où il y a eu des doutes, des allers-retours, des trucs et des tests. Tu parles beaucoup de tester des trucs et je trouve ça trop bien parce que souvent on se met une pression de ouf en se disant, mais si c'est nul, ça marche pas, ben en fait, tant pis, enfin, c'est pas grave.
Tant mieux.
Ouais, c'est ça.
Autre chose.
C'est ça, donc trop bien. Donc du coup, t'as lancé les collectives.
Ouais.
Après, donc, tu fais aussi les retraites et la bouffe.
Ouais.
Alors ça, c'est venu quand les retraites et ensuite, peut-être l'activité qui est un peu plus à part de... Bah, peut-être pas, tu nous diras. Je ne sais pas comment on dit, traiteuse.
Ouais, Catherine, on dit, nous.
Ok.
Mais oui, traiteuse. Chef avec deux
F. Chef, ok.
On est deux personnes sexuées. Donc, du coup, début d'année... Je suis de retour en Bretagne depuis septembre dernier, là, depuis un an. C'est vraiment super. Je n'axe mon travail, en tout cas mes projets qui me tiennent à cœur, que sur la recherche du plaisir et contribuer à un changement social, quoi. Je mets les retraites en place, ça prend, c'est cool. Je recommence les collectives un an après, donc ça c'était en début d'année. Ça prend deux groupes. J'avais fait tout un travail avant de relancer les collectives où j'ai été vraiment faire presque une étude de marché où en fait j'ai contacté les personnes qui me suivaient, je leur ai demandé si on pouvait faire des rendez-vous pour savoir éventuellement si ce genre d'espace ça pouvait les intéresser, à quoi ça ressemblerait, quel argent elles mettraient, quelle régularité, etc. Enfin, j'ai vraiment bossé les collectifs pour en faire quelque chose de cool. Donc, je l'ai relancé au printemps. Et puis, le business food, il faut qu'on en parle parce qu'il est vraiment, cool, ce truc. Donc, j'ai emménagé dans une coloc. On est dans la campagne, à côté de Rennes, avec on est 5 en tout. Et peu de temps après avoir emménagé, c'était l'anniversaire d'un coloc et avec Éléonore. Son surnom, c'est Léo. On faisait un gâteau d'anniversaire pour ce coloc. Et puis, on était dans la cuisine. On avait passé le vendredi après-midi, je pense, dans la cuisine. Et moi, ça faisait des mois et des mois où je me disais, j'aimerais trop avoir une demi-journée par semaine, je sais pas, une activité manuelle, mais presque, pourquoi pas un business, quoi. À un moment, j'étais là, je pourrais aller tailler des haies chez des gens, mais juste dans l'idée de avoir une autre activité, quelque chose de très concret, où tu mets les mains et où tu contribues aussi à l'espace territorial où tu vis, quoi. Et donc, on était dans cette cuisine en train de faire le gâteau, là. Et puis, à un moment, je sais plus qui me dit « c'est vraiment cool, j'aimerais trop faire ça plus souvent. » Et puis, on se regarde et puis on se dit « mais vas-y, on fait ça plus souvent, on lance un business. » Mais je déconne pas. Mais moi non plus, je déconne pas. Ok, vas-y, on réfléchit. Dans une semaine, on fait un rendez-vous et on en discute. Et donc, c'était trop chouette parce que ça partait d'une envie, encore une fois, de quelque chose de fun et de très… Enfin, de fun. Et pour le coup, là, c'était très spontané, quoi. Et donc là, j'ai découvert travailler à deux. Donc là, ça, c'est vraiment super. C'est très cool aussi d'avoir toutes mes activités pour pouvoir profiter aussi de ce moment où on est à deux. Et en fait, ça a été hyper rapide. On ne s'est pas posé énormément de questions parce que c'est quelque chose de très simple, en fait. C'est faire de la nourriture, utiliser des produits bio, locaux, ancrés dans le territoire, de saison, et faire des choses qui nous font plaisir et qu'on trouve belles et qu'on trouve bonnes, quoi. Et donc tout c'est très, enfin ça s'est enchaîné quoi. On a trouvé un nom, on a fait un logo, tout ça c'était en une demi-heure, c'était fait. J'étais là, mais c'est génial, c'est super. Moi j'ai mis 4 ans à faire tout le reste, mais tant mieux. Et elle aussi de son côté, Léo, elle a plusieurs activités, donc je pense qu'on s'est retrouvé au bon moment. Et puis en fait on a lancé, donc ça s'appelle Carcar. On a lancé Carcar et en fait on a eu une proposition pour faire un premier pop-up, donc c'était notre première expérience. Et puis ensuite, on a été invité pour faire un gros événement à Bâle pendant la Art Fair. Donc en fait, notre premier gros truc, ça a été huge. Des fois, on y repense, on est là genre, mais meuf, on a fait des trucs. En gros, on a monté un resto pendant 3 jours quoi, à Bâle.
Mais c'est fou cette histoire. Ça mériterait presque un épisode de podcast à part entière, mais parce que... Enfin, arrête-moi si je me trompe, mais tu n'avais jamais ouvert de restaurant ou... Enfin, c'est pas... Non. T'avais de l'expérience dans la cuisine ?
Alors, dans la cuisine depuis toute petite, mais jamais de manière pro. Après, j'ai bossé dans pas mal de cafés. Quand j'étais étudiante, je faisais des saisons et tout. J'ai un rapport à la nourriture qui est, pour moi, c'est quelque chose de facile parce que c'est quelque chose que je fais depuis toute petite. Enfin, c'est facile. Il y a un truc simple d'associer des choses et tout. Et j'ai pas mal de personnes autour de moi aussi qui sont, enfin des nanas d'ailleurs, qui sont chefs. Et qui sont pas forcément chefs dans des restos, qui sont aussi chefs de manière itinérante. Notamment ma coloc à Biarritz, Marine, qui elle a monté son activité pendant qu'on vivait ensemble. Donc mine de rien, ça m'a aussi pas mal aidée, tu vois, pour capter comment ça fonctionnait et tout. Mais je crois qu'on avait, et qu'on l'a toujours d'ailleurs, une certaine confiance de ce qu'on faisait, en fait, parce qu'on trouve que c'est bon ce qu'on fait, on trouve ça beau, on prend du plaisir, et on a aussi l'expérience de nos autres activités qui viennent aussi nous aider, quoi. Et il n'y a pas d'enjeu, enfin, je sais pas, c'est très... Il n'y a pas d'enjeu, on y va. Et puis on est deux, hein. Ça change tout. Enfin, en tout cas pour moi, vraiment.
Ouais, j'imagine.
Et donc voilà, et donc du coup depuis, bah, on a eu plusieurs, enfin on a bien bossé quoi. À partir du moment où on a lancé, même peut-être un peu trop. En juillet, c'était un peu dur parce que du coup j'avais tout, il y avait Carcar, les collectives, les retraites, etc. Et là à la rentrée, il a fallu que moi je me pose un peu pour de nouveau encore réfléchir un peu à ok, où est-ce que je mets mon énergie, quel com j'ai envie d'avoir sur tel ou tel projet. Le fond des choses, penser à l'après, où est-ce que j'ai envie d'emmener les projets et tout. Et donc là, il y a des choses qui sont un peu en train de se restructurer, mais c'est plus des histoires juridiques, okay. Des histoires d'organisation, de statut, etc. Et voilà. Et en fait, j'ai compris que j'étais quelqu'un, mais je le sais depuis toujours, mais là, j'ai encore eu la preuve, c'est que je ne peux pas faire une seule chose. Enfin, ça me bute, quoi, si je fais un seul truc. J'ai besoin d'avoir plusieurs choses, j'ai besoin d'avoir des to-do qui viennent nourrir différents projets pour et moi ça me donne vraiment de l'énergie quoi. Enfin c'est je plus j'ai de choses à faire presque en tout cas sur différents sujets plus ça me donne de l'énergie et plus j'ai de la capacité. Si j'ai que un seul truc et que je me concentre que sur un seul truc, je commence à me poser trop de questions, je commence à me sentir mal dans mon corps. Enfin voilà. Donc faut que ça bouge, faut qu'il y ait du mouvement quoi.
Ouais. J'ai l'impression que Carcar, quand tu le racontes, on a l'impression qu'en fait, ça s'est fait un peu tout, enfin pas tout seul, mais en tout cas, ça s'est fait facilement parce que justement, comme tu dis, vous vous êtes pas mis de pression et que le fait d'avoir plusieurs choses comme ça, et bien finalement, tu te mets moins de pression sur chaque truc et je pense que la pression, ça peut faire avancer certaines personnes, mais ça peut aussi bloquer d'autres. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un truc de ça.
Ouais, complètement. Et puis, en fait, il y a aussi un truc, c'est que du coup, j'ai plusieurs moyens de faire rentrer de l'argent. Sur mes comptes en banque, j'en ai plusieurs maintenant. Mais oui, enfin, il y a quelque chose de rassurant en fait. Il y a quelque chose de rassurant, il y a aussi une sorte de comment dire. J'ai par exemple les collectives, les personnes quand elles s'engagent, c'est des périodes de 3 mois. Donc ça veut dire que je sais que chaque mois, donc là c'est je parle aspect financier, je sais que chaque mois j'ai cette somme d'argent qui vient. Carcar, en fait on a des choses qui se passent un peu, ça peut se passer en dernière minute, mais on a aussi des choses qui se prévoient longtemps à l'avance, donc on peut un peu, c'est une sorte de prévisionnel financier quoi. Et les retraites, Les retraites, c'est presque le truc le plus compliqué, je trouve. Parce que, en fait, il y a des personnes qui s'inscrivent très vite quand je lance. Et puis, des fois, il n'y a aucune inscription pendant longtemps. Et puis, les deux dernières semaines avant les retraites, des fois, je suis en panique. Donc, actuellement, par exemple. Enfin, non, je ne suis pas en panique, mais en tout cas, la prochaine retraite, là, par exemple, elle n'est pas complète. C'est dans 2 semaines. Mais je sais qu'il faut que je tienne parce que la dernière fois, j'ai eu une dernière réservation 2 jours avant le début de la retraite ou 3 jours avant. Donc, les retraites, c'est encore un truc qui est peut-être un peu plus incertain. En tout cas, qui pourrait me stresser parce que je sais moins comment ça peut se passer, quoi.
Ouais. Ok. Du coup, bon, j'ai des milliers de questions dans ma tête, mais il va falloir faire le tri parce que on va parler pendant 3 heures. Déjà, il y en a une qui m'intéresse particulièrement parce que c'est en partie pour ça que je t'ai invitée, parce que je trouve que c'est un discours qu'on n'entend jamais, alors que je trouve ça tellement important. C'est cette notion de plaisir, de faire des trucs dans la vie qui nous font plaisir. Pourquoi on a oublié ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment important. Toi, ça te vient d'où? C'est un truc que tu as toujours eu? C'est un truc que tu as appris à développer? Comment tu as mis ça au centre de ta vie?
Alors, en vrai, je pense que c'est l'histoire de ma vie, donc ça pourrait être très très long. L'explication, je pense que ça prend vraiment racine quand j'étais enfant, quoi. Le rapport hypersensuel aux choses, de mettre les mains dans la boue, de je passais des après-midi à danser, à chanter sur de la musique. Et en fait, vraiment, il y avait un truc de ok, je jouis de mon corps et de la vie parce que c'est trop cool d'être vivant, quoi. Et puis après, la vie arrive, il se passe des choses, des trucs plus ou moins compliqués, etc. Et puis on a, je sais pas, l'adolescence, début de la vingtaine. Enfin, je sais que je suis quelqu'un qui a mis beaucoup de masques parce que j'avais l'impression que c'était comme ça qu'il fallait faire. J'ai beaucoup performé. Enfin, en tout cas, j'ai eu la sensation de beaucoup performer aussi le genre féminin. En tout cas, d'avoir l'impression qu'il fallait que je sois comme ça. Et puis il y a aussi le constat simple en fait de regarder autour de moi et de voir que le plaisir, il est pas partagé. Il y a un certain type de population qui a accès au plaisir, d'autres personnes dans la société qui n'y ont pas accès ou peu accès et qui vont beaucoup faire plaisir aux autres. Et en fait, tout ça fait qu'au final, qui gagne dans cette histoire, qui prend plaisir, je ne sais pas si on peut parler de plaisir, mais c'est clairement le système capitaliste en fait. Enfin, c'est parce que c'est lui qu'on sert un peu tous et toutes le matin quand on se lève, en fait. Et genre, je suis pas en train de dire « Ah, c'est terrible, faut brûler le système ». Genre, c'est comme ça, en fait. On peut faire autrement, on peut en tout cas essayer de faire autrement pour le futur parce que c'est un petit peu urgent, là. Mais en tout cas, il y a ce triste constat de « Ok, on est vivant, on vit un certain nombre d'années, et en fait, il y a un potentiel qu'on a chacun, chacune, c'est de kiffer vivre, en fait. Enfin, genre on a la possibilité de sentir quelque chose d'agréable dans notre corps, de prendre plaisir à faire des choses, à être avec des gens, à dire des choses, à en entendre, etc. Ben, en fait, moi, perso, quitte à vivre, autant que ce soit cool, quoi. Enfin, sinon, c'est chiant. Après, n'oublions pas que nous sommes quand même dans une société qui a évolué dans un climat chrétien, qu'il y a aussi toute une dimension de on doit un peu être martyr, on doit servir, etc., etc. Et le plaisir, il serait dans un après, parce qu'on aurait été bon, de bonnes personnes. Mais du coup, ça vient contribuer à un peu tout ce que je te disais tout à l'heure par rapport au masque, par rapport à tout ce qu'on empêche de faire, ce qu'on s'empêche de faire, etc. Et en fait, moi, j'ai la flemme de... Enfin, j'ai pas envie, tu vois. Et il y a des personnes dans mon entourage, et notamment une personne très proche qui est ma mère, qui est morte quand j'étais petite. Je me dis, du coup, la vie, elle peut être courte, en fait. Du coup, j'ai vraiment pas envie de me faire chier. Et puis, c'est même pas que j'ai pas envie de me faire chier, c'est que j'ai envie de kiffer, quoi, du coup. Parce que c'est possible. Et donc du coup, ça demande en tout cas moi, ça m'a demandé et ça me demande toujours de me repositionner par rapport à ça. Okay, est-ce que là, ce que je vis, ça me convient, tu vois, et c'est ce qui vient d'arriver là en septembre. Non, il y avait des choses à restructurer. Est-ce que l'espace dans lequel je vis, il est cool? Est-ce que les relations dans lesquelles je suis, elles me conviennent? Et comment est-ce que je peux cultiver ce plaisir chaque jour? Et pour moi, faire plus de place à mon plaisir, ça me demande aussi de me responsabiliser en tant qu'individu. Je suis une personne blanche. Ma famille est agriculteur, donc on était clairement, on n'avait pas énormément d'argent, mais ça va. On avait un jardin, j'avais à manger, j'avais accès à un espace dehors, etc. J'ai fait des études, en tout cas, j'ai eu accès aux études. Donc ça me demande aussi de me dire, genre, ok, moi, c'est quoi ma responsabilité dans la société? Qui est-ce que potentiellement j'oppresse? Comment est-ce que j'entretiens aussi le système qui nous oppresse tous et toutes? Et c'est pas dramatique quand je dis ça, c'est ok en fait, c'est juste genre ok, on est des êtres vivants et du coup comment on contribue à l'espace, à l'écosystème dans lequel on vit quoi, tout en gardant à l'esprit que c'est possible de le faire en revenant à des choses simples qui sont de kiffer le corps dans lequel on est et de, en tout cas de jouir de la vie qu'on vit tous les jours quoi. Et aussi de ne pas se mettre la pression et de se dire genre s'il y a des périodes où il n'y a pas de plaisir et où on est triste et où on est mal, ben en fait c'est pas grave. C'est pas qu'on est nul, c'est juste qu'en fait on a des choses à process et qu'on a des émotions et que potentiellement si on accepte ça justement et aussi dans nos business du coup que bah oui c'est normal d'être stressé, c'est ok, bah presque il y a un truc que des fois presque sadomaso de à quel point est-ce que je peux kiffer ça, tu vois. Et notamment il y a eu ce moment à Bâle avec Carcar là, le gros pop-up. Mon adrénaline, elle était au top du top du top. Je me suis rendu compte à quel point aussi il y avait des moments de ma vie où j'aimais être shootée comme ça. Et à un moment, je me suis dit, genre, là, c'est dur. À quel point est-ce que je peux kiffer ça? Et je me rappelle le moment où je me suis dit ça. J'étais genre, ah ouais, en fait. Ouais, là, je suis en stress et tout. Mais go, c'est cool. Enfin, on y va. Et on sent ce qui se passe dans le corps. Et en même temps, on est en train de faire un projet ouf, etc. etc. Donc, ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est. Clairement quelque chose qui un prisme qui a révolutionné et qui révolutionne toujours ma vie et merci à Adrienne Marie Brown d'avoir théorisé ça, merci Audre Lorde d'avoir aussi écrit sur l'érotisme, merci à plein d'autres personnes en fait qui m'ont permis aussi de me dire genre ah mais oui mais moi aussi je pense ça en fait c'est cool ou ah je pensais pas ça et c'est cool.
Ouais, c'est hyper intéressant et je veux bien après si tu veux que tu nous donnes un peu les rêves que tu viens de citer, je les mettrai dans les notes de l'épisode si cette conversation a éveillé la curiosité de quelques personnes qu'elles veulent en savoir plus, ce sera cool. Si tu fais on vient de faire une grosse rétrospective de ton aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce qui était pour toi le plus, j'aime pas ce mot, mais j'ai pas de synonyme, le plus challengeant. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui t'a demandé le plus de, je sais pas comment expliquer, mais est-ce que tu comprends la question?
Ouais. Ouais, qui a été le plus, enfin, en tout cas, un truc qui a été le plus dur, quoi, ou qui m'a vraiment demandé.
Ouais, ou qui t'a vraiment mis. Qui t'a demandé des ressources que peut-être tu pensais pas avoir ou que tu savais pas que t'avais. Enfin,
je pense que dur comme question. Enfin, c'est dur. Ça me demande de réflexion. Je pense que ce qui a été le plus challengeant là-dedans, qui au final quelque chose de que j'ai intégré assez récemment, c'est que c'est de comprendre et d'accepter le fait qu'il y a un milliard de manière de faire de développer des activités, qu'il n'y a pas une stratégie et que en fait c'est un peu à chacun chacune de trouver sa manière de développer ses activités mais du coup c'est dur quand tu commences parce que tu te dis bah non mais je sais pas comment faire du business et ouais. Tu te tournes du coup vers des personnes qui potentiellement ont beaucoup de visibilité ou en tout cas enfin voilà, tu te dis ok ces personnes elles savent ce qu'elles disent, enfin voilà je vais me tourner vers leur autorité quoi et en fait ben enfin moi je pense que c'est pas tout hein, mais la plupart des personnes c'était pas les bonnes personnes quoi, vraiment. Presque ce qui a été le plus challengeant c'est de passer entre toutes leurs mailles là toutes ces personnes qui essayent de faire du business sur les insécurités des autres putain, je crois que c'est ça qui a été le plus challengeant. Et de me dire que, ok, bah, y a d'autres manières de faire, quoi. Il faut aller chercher ailleurs et autrement.
Ouais, et se faire confiance aussi. Ouais, je vois, c'est qu'on aimerait tous et toutes avoir la recette, en fait, les étapes à suivre pour réussir, pour que son entreprise réussisse. Et sauf qu'en fait, je crois que ça n'existe pas. Ou alors, si quelqu'un l'a, cette personne la garde très, 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 très secrètement. Et ouais, ça demande effectivement de se faire confiance et de se dire, ben, moi, j'ai envie de faire les choses comme ça et d'oser et de tester. Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire.
Il y a autre chose, si t'es OK, que je partage.
Vas-y, vas-y.
Je me rends compte aussi que du coup, dans ces dernières années, d'avoir vraiment des entités. Pour moi, j'ai vraiment trois activités, tu vois. Ben en fait, ça m'a dégagé aussi de moi, Chloé l'écrivain. Mmh. Chloé l'écrivain, elle a entrepris ça. Mais du coup, les retraites, c'est un projet à part entière. Les collectifs, c'est un projet à part entière. Même si les retraites et les collectifs, ça se rejoint. Carcar, c'est un projet aussi. Et du coup, j'ai l'impression que c'est plus comme si j'avais des jeux de cartes, différents jeux de cartes. Alors qu'avant, pour moi, c'était mon activité, c'était moi. Et ça, pour le coup, c'est des choses que j'ai vues aussi au début de mon activité, de comment est-ce que tu te positionnes, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ta activité. Je pense que ça a été aussi un travail que j'ai dû faire, mais qui est venu de plein d'expériences à un moment. Donc, il y avait Chloé qui entreprend et il y avait les différentes activités, mais du coup, maintenant, je sais pas, mais je pense que c'est un truc d'assurance. En tout cas, maintenant, j'ai l'impression que s'il y a quelque chose qui échoue, bah c'est pas toute la montagne Chloé l'écrivain qui s'effondre, quoi. C'est ok, bon, bah ça marche plus, il faut faire autrement. Enfin, donc prendre du recul, je pense.
Ok, hyper intéressant. Du coup, la dernière question, je pense que ce sera la dernière que j'ai envie de te poser, c'est que je considère que dans chaque parcours, on peut y mettre autant de travail qu'on veut, il y a toujours une part de chance qui joue. Et je trouve que c'est important de le dire. Donc, est-ce que tu peux nous parler d'une fois, deux ou trois fois, comme tu veux, où tu as eu de la chance ?
Très bonne question. Où est-ce que j'ai eu de la chance ?
Ça peut être une rencontre, un endroit où tu étais à un moment et ça a fait tilt. Enfin, tu vois, ce genre de trucs qui tiennent finalement à on ne sait pas quoi, mais ça t'aide, quoi.
C'est marrant parce que du coup, ça n'a rien à voir avec... c'était bien avant mes activités... mon activité depuis 2018-2019 là.
Oui, mais finalement, est-ce que ça n'a pas joué sur où tu es aujourd'hui, je pense.
Ouais. Que... Et ben du coup, c'est d'avoir fait des études en art parce que ça m'a appris à essayer des trucs, à développer aussi des sortes de concepts, d'avoir un regard critique aussi sur le milieu dans lequel je suis. Parce que du coup, en école d'art, on t'apprend aussi à critiquer l'art, ça c'est cool. Et moi, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus, du coup. Et ouais, je pense qu'en fait... Ah, c'est cool, cette question, parce que je la formule, là, du coup. Ben, mes études en art, donc j'ai fait 3 ans. Ça, mine de rien, ça, ouais, j'ai de la chance d'avoir eu accès à ça, parce que ça m'a appris beaucoup pour la vie, en fait. C'est un peu l'école de la vie. Plein de points.
C'est beau.
Et ouais... Bah, c'est ça, du coup, ma chance. Merci. Là, je pense, du coup, à certains profs qui... Enfin, ouais, il y a vraiment des profs que j'ai rencontrés. Mais il y en avait, c'était plus compliqué, mais il y a un groupe, là, de profs, je pense qu'ils ont éveillé plein de trucs dans moi, et merci à eux et à elles.
Trop bien. Écoute, ce sera le message de la fin, sauf s'il y a un truc que tu voulais absolument dire aujourd'hui et que tu n'as pas pu dire.
Mettez du plaisir dans votre business.
Trop bien, j'adore cette conclusion. Merci beaucoup Chloé.
Avec grand plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez tout simplement lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou bien me laisser un petit commentaire. Pour me contacter, rendez-vous sur mon site web ou sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode et je vous retrouve très bientôt. Ciao !